À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois
Stéphane Honoré-Rousseau, historien, il en faut.
Premier épisode, l'ombre de la Grande Guerre. Bonsoir Stéphane Honoré-Rousseau.
Bonsoir.
Historien, vous l'avez dit, historien de la Grande Guerre. Ça n'est pas rien parce que la Grande Guerre, c'est celle qui fut la matrice du XXe siècle, la Grande Boucherie, la guerre de 14-18. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la première diffusion de cette série d'À voix nue avec vous est diffusée entre le 14 et le 18 novembre 2022. Vous lui avez consacré à cette Grande Guerre de très nombreux ouvrages qui ont fait date. D'ailleurs, beaucoup pensent, dans la communauté des historiens, qui n'est pas toujours d'accord, tant s'en faut, que vous avez changé l'historiographie de cette guerre. Mais il y a la guerre et il y a le fait guerrier. Vous vous intéressez aussi, en tant qu'historien anthropologue cette fois, au fait guerrier, au combat, à la violence de la guerre. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage intitulé « Combattre, une anthropologie historique de la guerre moderne, 19e-21e siècle ». Et à ce titre, votre regard sur la présence de la guerre dans notre société est particulièrement éclairant, même si évidemment il est souvent plus noir que rose. Il nous oblige à faire face à ce qu'on a refoulé depuis près de 70 ans, sauf à quelques moments d'éclat à la fin du XXe siècle, et qu'on a vu ressurgir de façon brutale avec l'offensive russe en Ukraine du 24 février 2022. C'est donc un regard d'une grande acuité que vous nous offrez avec les yeux de l'historien, et en ce sens c'est précieux, et puis en plus, vous savez particulièrement bien raconter, un des dons des meilleurs professeurs d'histoire que vous êtes, puisque de l'enseignement et de la recherche, on l'a entendu, vous avez gravi les échelons. C'était écrit que vous travailleriez sur la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rousseau, dans un livre intitulé « Quelle histoire ?», qui est un récit de filiation qui a paru au Seuil, vous racontez à quel point votre histoire personnelle est inscrite dans l'histoire avec un grand H. Et comment l'histoire avec un grand H est inscrite dans celle de votre famille à travers la guerre de 14. Vous dites vos parents étaient des enfants de la guerre.
Ah, on commence évidemment par un point difficile. C'était écrit, sans doute, oui. Ce livre que j'ai publié, je crois, en 2013, que j'ai dû écrire donc quelques années avant que le centenaire de la Grande Guerre ne commence, a été la prise de conscience sans doute que c'était écrit. Mais évidemment, je ne savais pas que c'était écrit. Ça s'est écrit malgré moi. J'appartiens, c'est vrai, à ce que j'appelle la troisième génération après la Grande Guerre, c'est-à-dire les petits-fils, en quelque sorte, les petits-enfants de ceux qui ont connu la guerre, soit comme combattants, soit comme civils. Cette troisième génération, c'est, je crois que les sciences de la psyché l'ont... On finit par bien le mettre au jour. C'est la troisième génération qui pose des questions. Qui pose des questions que la première, évidemment. La première génération, elle n'a pas posé de questions. Elle a subi. Et ô combien. La seconde, généralement, s'est tue. Et la troisième pose les questions au moment où la première génération, généralement, disparaît ou est très près de disparaître. Et donc, de ce point de vue, je suis frappé de voir que j'appartiens à cette génération qui a... Voilà, qui s'est intéressé de nouveau à la Grande Guerre, disons, à partir des années 80 et 90, écrivains, cinéastes, réalisateurs, dessinateurs de bandes dessinées et historiens, bien entendu, plus évidemment un public beaucoup plus large. Donc, en ce sens, c'était écrit, mais c'est effectivement, quand j'ai à partir d'un certain âge, disons, que j'ai pris conscience que... au fond, mon travail d'historien avait été surdéterminé effectivement par une histoire familiale qui portait une grande guerre d'autant moins visible qu'elle n'avait pas été aussi tragique que dans d'autres familles où le deuil s'était parfois imposé massivement. On avait perdu un frère, un père, etc. Enfin, ça avait été vraiment une hécatombe. C'était pas du tout le cas chez moi. Les deux grands-parents étaient les deux grands-pères qui avaient fait la guerre. Le père de ma mère, le père de mon père étaient revenus en apparence intacts.
En tout cas,
physiquement intact, psychiquement à mon avis beaucoup moins intact, et notamment donc tout le livre est là-dessus. C'est un livre sur la guerre refusée. C'est un livre sur mon père en fait. Je serais tenté de dire que c'est une lettre d'amour à mon père qui n'a pas su voir, qui n'a pas su comprendre la guerre de son propre père qu'il a refusée à la fois pour des raisons personnelles, pour des raisons sans doute aussi en partie idéologiques, et qui, ne l'ayant pas comprise, cette guerre-là, eh bien, ne pouvait pas tout à fait se comprendre lui-même.
Racontez-nous l'histoire de Robert, le père de votre père, justement, parti à la guerre, revenu, vivant mais marqué à vie.
C'est un jeune homme de la... Robert, c'est un Robert Audouin, donc, c'est son nom. C'est un jeune homme de la bourgeoisie, donc qui vient de passer son baccalauréat, qui se prépare plutôt à des études scientifiques, qui voudrait être ingénieur, qui est saisi, hein, bien sûr, par la mobilisation, comme tant d'autres avec lui, et qui donc n'aura jamais les diplômes et la formation supérieure à laquelle il aurait aspiré, et qui a une formation de sous-officier d'abord, et puis qui monte en ligne, hein, dans l'artillerie, qui monte en ligne, donc dans ce qu'on appelle la seconde bataille de la Somme, c'est-à-dire septembre 16, à un moment, la bataille de la Somme, c'est la bataille en fait la plus importante de la Grande Guerre, la plus meurtrière, hein, et ça n'est pas Verdun, c'est la Somme. C'est aussi la bataille la plus internationale. Et il monte en ligne de nuit, pour la première fois, et il subit un de ces bombardements de destruction nocturne qui le terrorise, hein, et il écrit un texte à ce sujet quelques jours plus tard qui montre l'ampleur du choc, hein, subi. Il y a un avant et un après. Néanmoins, il survit ensuite à la guerre, revient, c'est un héros. Il est devenu officier, il est lieutenant, c'est un héros, il se marie, on fait son éloge, il fait vraiment faire partie de cette jeune phalange de héros, hein, ou cette phalange de jeunes héros plutôt, hein, qui a sauvé la France, comme on le dit, comme des personnes sans doute plus âgées que lui le disent dans leur discours de mariage, hein, au début des années 20. Et cet homme, en fait, ne le savait pas lui-même, il ne pouvait pas revenir de la guerre. Il ne pouvait pas revenir de la guerre. Il y a une brisure en lui que j'ai fini par voir parce que je suis historien. À force de travailler sur les soldats, sur l'après-coup, sur les sorties de guerre, j'ai fini par comprendre ce qui lui était arrivé. Et j'ai fini par comprendre que personne d'autre que moi n'avait réussi à comprendre ce qui lui était arrivé.
Parce que vous ne l'avez pas connu. Et malgré le fait que ce grand-père avait parlé à votre père a gardé cette histoire en lui en voulant l'effacer, la rayer.
Oui, c'est...
Donc il ne vous en a jamais parlé directement.
Lui-même n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Sa femme non plus. Les épouses sont généralement les moins bien placées, hein, pour comprendre. Personne dans son milieu. Et mon père, bizarrement, qui avait pourtant une grande culture historique, une grande finesse, n'a pas compris ce qui était arrivé à son père entre 1916 et 1918. J'ai été très, très frappé après coup par ce texte écrit après ce bombardement de 1916, ce texte que mon père me tend, un jour il dit, tiens, puisque, donc il avait gardé tout de même, hein, puisque tu travailles sur la Grande Guerre, je devais commencer mon doctorat, tiens, ça t'intéressera peut-être, il me donne le texte de son père comme ça, comme en passant. Alors que ce texte disait tout, hein, sur l'expérience de son propre père, et dans les mémoires qu'a écrites mon père, il commente ce texte, et alors que mon père était un grand lecteur, et il savait vraiment lire et comprendre un texte, ce texte-là, comme par hasard, il ne le comprend pas. Il s'en moque, en fait, comme si il y avait vraiment, comme si c'était un objet de moquerie, c'est tout l'inverse. Je crois, j'ai compris à ce moment-là que cette incompréhension, eh bien, était à la racine d'une faille très grave, hein, chez mon père, qui finalement, en dernière instance, l'a emporté.
Stéphane Noiruzzo, comment a-t-il pris votre père le fait que vous travailliez sur la guerre ?
Plutôt mal, à dire vrai. Plutôt mal, parce que mon père, et même, je dirais même très mal, parce que mon père donc appartenait au mouvement surréaliste deuxième époque, celui de l'après 45, après le retour d'André Breton des États-Unis. Mon père reste à distance, et puis finalement, à la fin des années 50, rejoint ce groupe. André Breton exerçait sur lui une fascination de longue date, hein, c'est évident. J'ai moi-même connu enfant, il me le présentait comme ça, hein, du côté de Pigalle, comme ça, le matin, va dire bonjour André Breton, il est là-bas, au bout de cette rue. C'est un très grand souvenir pour moi dans mon enfance. Donc il rejoint ce groupe, et ce groupe, le surréalisme s'est construit sur la négation même de la guerre, pas sur une opposition, sur la négation. Hein, comme l'a dit Aragon, je crois, nous ne voulions surtout pas avoir l'air d'anciens combattants. Et tous l'étaient plus ou moins.
Alors que voilà, tous l'étaient plus ou moins.
Un tel dégoût de ce moment que voilà, ça n'avait pas existé. Alors qu'évidemment, ça avait existé énormément, et on ne peut pas comprendre ni le dadaïsme bien sûr, ni le surréalisme sans référence à la Grande Guerre. C'est le terreau d'où ces extraordinaires mouvements artistiques et littéraires sont sortis. Donc
c'est pas un hasard si votre père, si la révélation pour votre
sûr,
père, c'est le surréalisme.
Bien sûr.
Continuez ce que vous avez dit.
De ce point de vue, cette négation lui convient parfaitement, et l'appartenance au mouvement surréaliste renforce la négation. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il comprenne un père patriote, évidemment. Un revenant patriote, assez raide sur les principes, revendiquant d'avoir fait une très belle guerre, ancien officier, qu'est-ce que vous vouliez qu'il y comprenne? Il était contre cela. C'était vraiment c'est exactement tout ce qu'il détestait. Mon père détestait tout ce qui avait trait, par exemple, au patriotisme. À l'attachement, hein, donc à une patrie, à une nation, comme la plupart bien sûr des surréalistes. C'est une chose qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne voulaient pas comprendre en aucune manière. Et donc le surréalisme n'a fait que l'engagement surréaliste qui a duré 10 ans dans le cas de mon père, mais c'est les 10 années heureuses de mon père. Cet engagement surréaliste a encore peut-être davantage éloigné mon père de la Grande Guerre, et comme par hasard, évidemment, moi, quand je me suis dirigé vers ce sujet, et notamment sur le pire du sujet, c'est-à-dire sur les soldats, et sur le pire du sujet, c'est-à-dire en particulier le sentiment de ce que j'appelais le sentiment national des soldats français, leur investissement défensif, si l'on veut, dans la nation, hein, qui me paraît indiscutable, avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Mon père comprenait pas très bien, et comme j'aimais bien faire lire mes textes par mon père, parce que c'était un correcteur de haut vol, il était évidemment assez consterné. Mais en même temps, il n'avait pas vraiment d'arguments à m'opposer, à part un agacement, hein, sensible, ce qui ne l'empêchait pas de corriger. De corriger les chapitres de ma thèse avec une pertinence dont j'ai encore le bénéfice aujourd'hui.
Et pourtant, il n'est pas venu à la soutenance de thèse, il ne fallait pas exagérer.
Mon père était très malade à ce moment-là.
À ce moment-là, il était malade, de toute façon.
Mon père était très malade à ce moment-là. Il aurait néanmoins pu venir. Il n'est pas venu à l'idée une seconde de l'inviter. Ça en dit long.
Dans le surréalisme dans lequel il s'est engagé corps et âme dans les années 60, Philippe, votre père, malgré tout, essaye de vous enrôler. Alors, vous êtes petit à ce moment-là, hein, mais il travaille la journée en gérant le système des retraites de la sidérurgie française. Et puis le soir, il est très engagé dans le mouvement surréaliste. Il participe à des revues comme La Brèche, comme l'Archibra. Et puis il vous emmène, vous, jeune Stéphane, il vous emmène dans des réunions, dans des dîners. Et vous en avez gardé non seulement des souvenirs forts, mais presque une éducation surréaliste. Enfin, j'ai presque envie de vous demander quel souvenir ou de quelle éducation surréaliste vous êtes l'héritier. Pas forcément donc cet antimilitarisme, hein, bien
pas
sûr,
du tout, dans
cet
mon cas.
Antipatriotisme, en tout cas, mais l'autre pan, qui est le pan peut-être plus artistique, disons. Vous êtes capable de reconnaître des œuvres.
Oui, plus artistique, plus artistique, plus littéraire. Il y a d'abord une attitude face à l'existence, ça c'est certain. Une méfiance à l'égard de tout ce qui est établi. L'université, par exemple, le monde académique est un monde par définition très établi. Je pense que mon père considérait que c'était vraiment qu'une thèse, par exemple, c'était vraiment un objet lamentable. Une soutenance de thèse, plus encore. voilà, l'érudition historique, littéraire, etc. Enfin, l'érudition académique, je veux dire, pas la culture, pas la haute culture, l'érudition. Hein, la note de bas de page, tout ça, était l'objet de son plus profond mépris. J'en ai gardé beaucoup. Hein, j'ai encore ça dans les moelles. Hein. Et puis, effectivement, ce goût hein, pour ce qui était à côté, disons, de la culture dominante bourgeoise des années 60 ou 70, le goût pour les arts premiers, bien sûr, le goût pour tout ce monde extraordinaire hein, de la peinture surréaliste, soit celle de l'entre-deux-guerres, soit qui est encore très très vivante, très active, celle des années 60 ou 70. Ce goût, effectivement, pour un monde différent, j'en ai gardé ce monde de ce groupe qui se réunissait autour de Breton, il s'est plus beaucoup réuni ensuite puisqu'il s'est dissous. Hein, il n'a pas résisté ni à la mort de Breton, ni surtout à l'échec de mai 68. Mais ce monde qui se réunissait donc dans un café célèbre, la promenade de Vénus, où les enfants de ceux qui venaient étaient dans un coin. Et ce monde-là, ce monde de discussion auquel évidemment je ne comprenais rien, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs, si je puis dire, hein, et j'en vois encore aujourd'hui l'extraordinaire exceptionnalité.
Vous parlez de 68 dans votre ouvrage « Quelle histoire, récit de filiation ». Vous dites quelque chose qui est très très fort, hein, qui est très dur. Vous êtes persuadé que le surréalisme a tué votre père. Et en même temps, vous dites que vous avez mis 40 ans à comprendre que c'est la défaite profonde à la fois du printemps de Prague et puis de mai 68 qui a plongé votre père dans une tristesse dont il ne s'est pas remis.
Alors quand je dis que j'étais persuadé, quand je suis persuadé que le surréalisme a tué mon père, c'est pas tout à fait cela. En fait, quand j'étais très adolescent ou très jeune homme, j'étais persuadé que le surréalisme avait tué mon père. Et maintenant, je ne le pense plus. C'est quelque chose que j'ai pensé parce qu'il fallait bien que j'attribue à quelque chose l'effondrement hein, de mon père, qui était effondrement absolument tragique, alors que mon père était la grande figure de mon enfance, de mon adolescence, et il reste d'ailleurs la grande figure de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Le mouvement de mai 68, et d'ailleurs mon père s'en explique très bien dans ses mémoires qui n'ont jamais été publiées et dans un petit bouquin qui s'appelait Les Surréalistes paru chez Gallimard qui était assez vivant de ce point de vue. Mai 68 c'était le moment surréaliste. Les surréalistes se sont retrouvés dans ce mouvement comme des poissons dans l'eau. Ils n'avaient plus besoin de se réunir, ils étaient à toutes les manifestations, ils étaient à la Sorbonne. J'ai vu mon père qui, effectivement, passait à son bureau le matin et partait dans les amphis de la Sorbonne l'après-midi. Ça me paraissait tout à fait naturel, alors que maintenant je me rends compte que ça ne l'était pas. Que c'était même stupéfiant, hein, et que d'ailleurs ça stupéfiait et indignait hein, ses collègues hein, de travail, ce que je peux comprendre. Et cet échec de mai 68, évidemment, a été très très durement ressenti. Il est doublé, comme vous le disiez très justement ensuite, par l'écrasement du printemps de Prague par les chars du pacte de Varsovie en août 68, donc très peu de temps après. Prague, où les surréalistes étaient très actifs, où s'étaient déroulées des expositions avec le groupe français qui avait été travaillé avec les Pragois. Enfin bon, donc c'était une ville clé en quelque sorte, si je l'ai bien compris, hein, pour eux. Et à quoi s'est ajouté le troisième coup, qui était l'approbation par Fidel Castro de l'écrasement du printemps de Prague par les soviétiques, qui a mis fin à l'illusion qu'il y avait encore une grande lueur quelque part. Et cette illusion avait été très forte dans le mouvement surréaliste deuxième époque, donc au cours des années 60. Mon père n'avait pas été tellement pris par cette illusion, mais enfin, elle était bien là dans le groupe. Donc trois chocs extraordinairement rapprochés qui mettent fin littéralement à cette aventure. Le groupe d'ailleurs en meurt hein, très peu de temps après, et je crois que mon père ne s'est jamais remis de ce qui a été pour lui une catastrophe, et au fond, la fin d'une raison de vivre. C'était la fin d'une raison de vivre, et rien d'autre. Il ne l'a pas caché, d'ailleurs, à certains de ses amis, qui m'en ont parlé plus tard. Voilà, les raisons de vivre avaient disparu, et donc mon père a disparu dans les 20 années qui ont suivi, dans une descente aux enfers qui a été vraiment, vraiment effroyable.
Stéphane Audouin Rouzeau, dans les figures marquantes de votre enfance, de votre jeunesse, il y a ce grand-père que vous n'avez pas connu côté paternel, Robert. Il y a ce grand-père que vous n'avez pas connu côté maternel, Max. Et puis il y en a un autre grand-père qui vous a marqué, c'est celui de votre femme, Pierre Bazin, autre vétéran de la Grande Guerre. Elle est vraiment présente, cette guerre, qui lui a été grièvement blessé à la guerre de 1915. Vous lui avez d'ailleurs dédié votre premier ouvrage sur les soldats de la Grande Guerre en 1986. Vous l'avez connu de très près, hein, des années 70 à 1989, date de sa mort. Il vous racontait plein d'anecdotes, ce Pierre Bazin.
Ah oui, je lui ai effectivement offert mon premier livre, tiré de ma thèse, qu'il a reçu avec une indifférence totale, évidemment. C'est très vexant pour moi, alors que je lui avais dédicacé vraiment en frontispice. Et c'était, il est mort centenaire, ce qui m'a permis voilà, effectivement de le côtoyer. Il m'a plus appris sans doute que beaucoup de livres. Hein, et c'était l'inverse sans doute de Robert ou de Max. C'était un homme qui voilà, avait apparemment... surmonter hein, l'épreuve de la Grande Guerre, une épreuve tout à fait extraordinaire, puisqu'il avait été grièvement blessé, très grièvement blessé en 1915. Il était infirme avec la moitié d'une main en moins. Il avait encore des éclats d'obus un peu partout sous le cuir chevelu. C'était une vraie guerre, voilà, d'officiers subalternes, c'est-à-dire ceux qui en avaient pris le plus dans la figure, hein, puisque les pertes étaient beaucoup plus, les pertes les plus lourdes, hein, ont touché, hein, ce corps des officiers subalternes, les lieutenants, les capitaines, hein, il en faisait partie. Alors, oui, il était vraiment le vétéran de la Grande Guerre, l'ancien combattant, absolument très fascinant pour moi, encore que, il me fascinerait aujourd'hui beaucoup plus que quand j'étais trop jeune. J'étais trop jeune pour comprendre. J'avais beau être historien, déjà d'avoir commencé mon travail d'historien de la Grande Guerre, de travailler sur les soldats, j'étais trop jeune, par exemple, pour l'interroger de manière intelligente. J'essaie de lui faire confirmer ce que j'ai appris par ailleurs, soit dans les archives, dans mes lectures, dans les livres, etc. Ce que je cherche, c'est la confirmation de ce que je sais déjà, au lieu d'au contraire... Hein, de voir ce qu'il pourrait m'amener en plus, ce qu'il pourrait démentir, hein, de tout ce que les autres ont dit. Et Pierre Bazin cherchait en fait souvent à démentir. Et là, on le faisait taire. C'est sa femme qui se chargeait de le faire taire. Et néanmoins, il y avait des bribes, hein, qui sortaient, des bribes notamment très surprenantes, surtout pour un homme comme lui, vieux normand, très réactionnaire, quasiment monarchiste, hein, par certains côtés, qui parlait des relations intimes entre soldats en première ligne, ce qu'il appelait les petits mariages entre soldats, qui ne se produisaient qu'en première ligne et qui se dissolvaient une fois qu'on était revenu dans une certaine normalité, dans les zones de repos, dans les camps de repos. Et alors là, évidemment, on cherchait à le faire taire, sa femme cherchait à le faire taire de la manière la plus vigoureuse, mais néanmoins, j'ai appris quelque chose là-dessus, grâce à lui, qui est absolument dissimulé dans toute la littérature. C'est un des tabous les plus complets, hein, sur le monde combattant.
Et les femmes, Stéphane Audouin Rouzeau, dans tout ça, quelle histoire. Ça a d'abord paru dans une édition sans femme, sans elle. Et puis, peut-être pris de remords, je ne sais pas, vous avez ajouté un texte sur les femmes de votre famille dans l'édition de poche, qui commence d'ailleurs par « J'avais oublié les femmes ».
C'est une collègue que j'estime beaucoup, Raphaël Branche, qui avait préparé pour Le Monde un grand article, histoire d'un livre, quand ce livre est sorti. Article qui n'a jamais été publié parce que j'ai beaucoup d'ennemis au monde des livres. Et Raphaël Branche me dit, mais enfin, il n'y a pas les femmes. Et là, je me dis, mais oui, c'est vrai, il n'y a pas les femmes. Bon, alors, et oui, bien sûr, c'est une histoire d'hommes parce que c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de soldats essentiellement. Quelle histoire ! Et donc, les femmes ont été les grandes oubliées de ce récit. Donc, en ayant pris conscience, hein, je me suis dit, je vais reprendre le même récit, mais du côté des femmes. Donc, je vais, hélas, comme souvent en histoire des femmes, bien les sources, les archives laissées par les femmes étaient quantitativement bien moindres que celles laissées par les hommes. Là où je pouvais écrire un livre du côté des hommes, du côté des femmes, je pouvais écrire un chapitre. Hein, c'est donc très peu. Néanmoins, j'ai essayé de le faire et je me suis rendu compte, c'est difficile à dire, que ces femmes, au fond, n'avaient pas compris, hein, ces hommes revenus de la guerre, ni ma grand-mère, épouse de Max, mon grand-père donc maternel, ni l'épouse de Robert, pourtant très fine, très intelligente, Paulette, qui n'a jamais compris la guerre de celui qui est devenu son mari, ni sans doute l'épouse de Pierre Bazin, qui savait davantage de quoi il retournait, sans doute qui devait tenir le lit de son mari, car dans les années 20, il avait l'impression que son lit tournait la nuit, etc. Donc, elle a bien dû percevoir quelque chose. Mais globalement, il me semble que ces guerres n'ont pas été comprises par les femmes. Et deuxième génération, ma mère, je pense, n'a jamais compris que mon père n'avait jamais compris la guerre de son propre père.
Oui, vous dites que l'histoire lui a échappé. Vous l'avez compris notamment à la réaction de votre mère après que vous lui avez lu « Quelle histoire ?» à voix haute. Elle a dit, votre mère, « Je me rends bien compte que beaucoup de choses m'ont échappé. »
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir lire ces chapitres qui m'ont glissé des mains de 3 jours en 3 jours pendant un été sans le moindre effort. Et ma mère était là, elle était encore de ce monde, et donc j'ai pu lui lire effectivement les chapitres les uns après les autres qu'elle a écouté dans un silence total. C'était comme si je lui révélais une histoire qu'elle avait vécue mais qu'elle n'avait pas comprise. Et effectivement, elle m'a dit cette phrase qui dit beaucoup. Et j'ai terminé le livre, enfin ce chapitre supplémentaire. J'ai dit voilà, ma mère avait vécu dans sa propre nuit.
Il fallait bien donc essayer de comprendre cette guerre qui avait échappé en tous les cas à beaucoup de personnes de votre famille. Et comprendre cette guerre, ça sera le sujet, l'objet de notre deuxième émission demain. Merci beaucoup et bonne soirée Stéphane Audouin-Rouzeau.
Merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, attaché de production Daphné Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.